Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un ouvrage qui sort vraiment des sentiers battus. C'est le 5e tome d'une collection sur l'énergétique chinoise de Jean-Pierre Guiliani et Romain Gourmand. Mais attention, on est très loin du simple manuel d'acupuncture. Le livre pose une question assez folle, en fait. Et si notre corps, ce n'était pas juste un corps, mais une sorte de carte au trésor, une carte qui mènerait à une sagesse universelle partagée par toutes les grandes traditions du monde?
C'est tout à fait ça. Et la mission qu'on se donne, c'est de suivre cette carte. On va essayer de décortiquer l'idée centrale du livre, ce qu'ils appellent la tradition des évidences. L'idée, c'est qu'il y aurait un langage symbolique commun qui relierait la Chine ancienne, l'Égypte, la Kabbale et même les mythes nordiques.
Ça paraît ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire, voire un peu perché. On va voir si ça tient la route.
Exactement. Le postulat est audacieux. En apparence, toutes ces traditions sont très différentes, mais si on gratte un peu, elles partageraient des archétypes universels. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Et le plus fascinant, c'est que le livre propose d'utiliser le corps humain, nos propres méridiens, comme un guide pour ce voyage initiatique.
D'accord, alors commençons par le début. Cette fameuse tradition des évidences. Le livre lance une idée qui bouscule pas mal de choses. L'origine de la civilisation chinoise ne serait pas celle qu'on croit. Il parle d'une influence égyptienne. Là, pour le coup, le grand écart géographique est énorme.
Oui, mais c'est une théorie qui ne date pas d'hier. Elle a été émise au XVIIIe siècle par un certain Joseph de Guignes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le livre la relie à des recherches beaucoup plus récentes, celles du géochimiste Sun Weidong.
Ah oui.
Oui. Il a analysé des textes chinois très anciens qui décrivent la géographie de la première dynastie, la dynastie Xia. Et là, il y a un détail qui cloche.
Lequel ?
Ces textes décrivent un grand fleuve qui coule du sud vers le nord et qui se divise en 9 bras avant de se jeter dans la mer. Or, en Chine, tous les grands fleuves coulent d'ouest en est. Un fleuve qui coule vers le nord, ça ne vous rappelle rien ?
Le Nil, évidemment.
Exactement. Pour Sun Weidong, la description correspond parfaitement au Nil. Alors, c'est une hypothèse controversée, bien sûr, mais elle ouvre une brèche. Le livre mentionne aussi une autre piste, celle de Ternien de Lacouperie au XIXe siècle, qui, lui, voyait des liens entre les hexagrammes du Yi Jing et l'écriture cunéiforme de Mésopotamie.
D'accord. L'idée du Nil est intrigante. Mais est-ce que le livre apporte des preuves archéologiques solides ou est-ce que ça reste au niveau de l'interprétation de textes? Parce que ça pourrait aussi être une coïncidence.
C'est une excellente question. Le livre, en fait, ne prétend pas apporter une preuve définitive. Son but est ailleurs. Il utilise ses hypothèses pour illustrer son point principal. Les frontières entre les cultures sont peut-être des constructions modernes. L'idée, si moins de dire « les Chinois viennent d'Égypte » que de suggérer que la sagesse humaine viendrait d'une source commune. Et le fil conducteur de cette sagesse, pour les auteurs, c'est le Dao.
Le Dao, la voix.
Oui, et l'idéogramme lui-même, Do, est une clé. Il est composé du symbole de la tête, Shu, la conscience, et du symbole de la marche, Je, les pieds. La voie, ce n'est donc pas juste un concept abstrait, c'est un chemin qu'on parcourt concrètement, la pensée et l'action, le haut et le bas. C'est ça la totalité de l'être.
D'accord, donc s'il y a une voie universelle, comment est-ce qu'on la trouve? On en revient à cette idée de carte dans notre propre corps. Ça me paraît encore plus fou.
Et pourtant, c'est le cœur de la démonstration. Le livre propose un parcours initiatique le long d'un méridien très précis, celui du poumon. Chaque point devient une étape, un symbole à déchiffrer. Et pour rendre la chose encore plus universelle, ce parcours de 11 points est mis en parallèle avec les séphirotes de l'arbre de vie de la Kabbale.
Ah oui, donc on part de l'acupuncture chinoise et on arrive à la mystique juive. Le grand écart continue.
Absolument. Le voyage commence au bout du pouce, au point 11 poumons, Shaoshang. Déjà, le chiffre 11 est symbolique. C'est le nombre du Dao, l'union des 5 mouvements de la terre et des 6 qualités du ciel. C'est le départ du pèlerin. Puis, on remonte le long du bras. Le point 10 poumon, Yuji, par exemple, est associé par les auteurs au temple de Delphes et à sa maxime.
Connais-toi toi-même.
Voilà. Le message est clair. Le voyage est d'abord intérieur.
C'est fascinant de lire son propre corps comme ça, comme un texte sacré. Est-ce qu'il y a une étape qui marque un tournant dans ce voyage?
Oui. Une étape cruciale, c'est le point 5 poumons, Shijie, le marais du pied. Ce point est associé à la porte des anges et aux équinoxes. Et pour illustrer ça, le livre fait un parallèle saisissant avec le mythe de Perséphone, enlevé par Hadès.
La descente aux enfers.
Exactement. Ce mythe, ce n'est pas une simple histoire. C'est une instruction psychologique. Il nous dit qu'à un moment, il faut descendre dans notre propre ombre, dans notre marais intérieur, faire face à ce qui est sombre en nous, pour espérer remonter vers la lumière transformée. C'est une confrontation inévitable.
C'est une idée très puissante, cette descente volontaire. Et après cette confrontation, où est-ce que le chemin nous mène? J'imagine qu'on remonte.
Tout à fait. Le voyage s'achève près de l'épaule, au point un poumon, Zhongfu, l'atelier central. C'est le lieu de l'accomplissement, de la réunification. Et pour le symboliser, le livre utilise une image magnifique de la mythologie chinoise, l'union de Fuxi et Nuwa. Fuxi tient une équerre, l'outil qui construit le carré, le matériel, la terre. Et Nuwa, elle, tient un compas, l'outil qui trace le cercle, le ciel, l'infini.
L'équerre et le compas, les outils des bâtisseurs.
Voilà. La destination finale, c'est de devenir les deux à la fois. C'est la réconciliation des opposés en nous. Être parfaitement ancré dans le matériel et parfaitement connecté au spirituel.
Donc si je suis bien, ce voyage le long du méridien, c'est une grande métaphore. Une alchimie intérieure, comme dit le livre. Quand j'entends alchimie, je pense tout de suite au plomb qu'on transforme en or.
C'est exactement de ça qu'il s'agit, mais sur un plan psychologique. Le plomb, c'est notre nature brute. Pour comprendre, la tradition taoïste dit qu'on a plusieurs âmes. D'un côté, les trois âmes spirituelles, les Hun, qui viennent du ciel, les stratèges en quelque sorte, et de l'autre, les sept âmes corporelles, les peaux. Elles sont ancrées dans le corps.
Et quel est leur rôle à elles?
Elles gèrent les besoins immédiats, la survie. Le livre les appelle les sept démons agités. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais leur seul job, c'est de nous garder en vie. Ce sont elles qui crient « j'ai faim, j'ai peur ». L'alchimie, ce n'est pas de les faire taire, mais de ne pas les laisser prendre le volant.
C'est une bonne image. Et dans le livre, il y a une autre notion encore plus étrange, les trois cadavres, ou Sinchi. De quoi s'agit-il?
Alors ça, c'est un concept fascinant. Ce sont des sortes d'entités qui habitent notre corps et qui symboliquement représentent les trois obstacles à l'éveil. Le premier, dans la tête, c'est l'ambition intellectuelle, l'orgueil. Le deuxième, dans le torse, c'est l'attachement au plaisir des sens. Et le troisième, dans le ventre, nous lie au désir matériel, à la possession.
Donc si je comprends bien, ces trois cadavres, c'est un peu nos bugs de programmation, les penchants pour l'excès qu'on a en nous.
C'est une excellente façon de le voir. Ce sont des forces d'inertie. Le but n'est pas de les détruire, mais de transformer leur énergie. C'est le fameux solvé et coagula des alchimistes occidentaux. Dissoudre ce qui est impur pour ensuite faire coaguler une nouvelle substance, plus noble. C'est un processus en trois étapes. L'œuvre au noir, la confrontation avec l'ombre. L'œuvre au blanc, la purification. Et enfin, l'œuvre au rouge, la réalisation spirituelle.
C'est déjà vertigineux de penser ça. Mais le livre ne s'arrête pas là, il étend cette idée à l'architecture. La cité interdite, les temples égyptiens, les cathédrales, tous seraient construits sur le même plan.
C'est la suite logique de la tradition des évidences. Si le corps est un microcosme qui reflète l'univers, alors les édifices sacrés devraient aussi le refléter. Le livre s'appuie beaucoup sur les travaux de R.H. Schwaller de Lubitsch sur le temple de Louxor. Il a conclu que le temple est une projection de l'homme cosmique.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que chaque partie du temple correspond à une partie du corps. La grande salle hypostyle, par exemple, avec sa forêt de colonnes, elle correspondrait au poumon. Vous êtes littéralement en train de marcher à l'intérieur d'une cage thoracique de pierre. Une autre salle sera le cœur, une autre le cerveau. Le temple devient un livre de pierre qui enseigne l'intégration de l'homme dans le cosmos.
Et on retrouverait la même chose pour les cathédrales gothiques? J'ai toujours pensé que leur plan en croix était juste une référence religieuse.
Lumière. C'est un chemin de transformation inscrit dans la pierre.
En conclusion, si on essaye de tout rassembler, ce qui ressort, c'est une vision du monde, où tout est connecté en fait. Le corps, les étoiles, les mythes, les temples, tout semble parler le même langage. Un langage qui raconte encore et encore la même quête de transformation.
C'est exactement ça. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, le livre se termine sur une hypothèse scientifique qui donne littéralement le vertige. Elle vient du physicien Jean-Émile Charon. Il a émis une théorie selon laquelle chaque particule élémentaire de notre corps, proton, électron, posséderait une sorte de mémoire.
Une mémoire ? Dans une particule atomique ?
Oui. Il nomme ces particules mémoire des éons. Et selon lui, chaque éon accumulerait de l'information depuis l'origine de l'univers. Si on suit cette vision, notre esprit, notre conscience, ne serait pas localisé que dans notre cerveau. Il serait holographique, contenu dans chacune des milliards de particules qui nous composent.
Attendez, ça voudrait dire qu'on serait littéralement des fragments de l'univers, porteurs d'une mémoire éternelle ?
C'est l'idée. Et dans ce cas, la connexion entre le microcosme, nous, et le macrocosme, l'univers, ne serait plus seulement symbolique ou philosophique, elle deviendrait physique, fondamentale. Ce savoir universel ne serait pas quelque chose à apprendre à l'extérieur, il serait déjà là, en nous, encodé dans chaque atome. Une bibliothèque silencieuse qui contiendrait toute l'histoire du cosmos.